bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
Frappé aussi par la grâce, la bande originale.
Oh, oui, c'est pas faux.
Que serions-nous sans vous, Laetitia Gay?
On serait libre.
Je suis leader sur tous les quarts d'heure de chaque heure.
C'est ça, exactement. Donc c'est vous qui tenez la boutique et la baraque.
Exactement, j'arrête pas de le dire.
Ça fait du bien.
Bah oui.
Vous l'avez rappelé qu'on était numéro 1?
Non. Oh, la bande originale.
C'est l'info du jour. C'est l'info du jour. Merci.
Devant le monde de l'univers.
Au monde. Bon, allez, je vais pleurer ailleurs. Vous revenez à midi, s'il vous plaît.
Oh, bah, je vais revenir, oui.
Merci.
Et vous aussi à midi?
Oui. Avec Leïla Kadhoubouzadi, Marina Rollman, Daniel Morin,
bonjour Leïla,
Albert Albi,
bonjour,
Tanguy Passereau sera là tout à l'heure, et notre invité de l'Académie française, Jean-Christophe Ruffin.
Bravo!
Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour
Nagui. On est ravis de vous accueillir.
Sur la première radio de France.
Bienvenue.
Non, on avait dit qu'on la jouait modeste. On avait dit qu'on ne ferait pas non plus trop lourd, trop.
C'est juste qu'il faut là.
On a dit qu'on jouait la sobriété. Qu'on ne remuerait pas les audiences ou les auditions, ça dépend du procès.
En Suisse, on dit les auditeurs.
Laissez Marina tranquille.
Mais en tout cas, et pardon Jean-Christophe de commencer par ça, mais on voulait remercier.
Bravo.
On voulait remercier nos auditeurs et pour leur fidélité et de nous supporter dans tous les sens du terme. C'est dans le sens de soutien et dans le sens de ils nous fatiguent. Mais cette émission, et c'est la première fois que j'ai le plaisir de vous le dire, nous sommes l'émission la plus écoutée de France entre 11h et 12h30. Mais c'est dingue! Et nous le faisons dans la sobriété.
Pas de fanfaronnade, les amis.
Pas notre style.
Pas de fanfaronnade. Bon, je me suis trompé de radio, mais bon,
soyons sobres. Bien. La sobriété n'est pas forcément au rendez-vous non plus de ces 7 mariages d'Edgar et Ludmilla, Jean-Christophe Ruffin. Chez Gallimard, ce nouveau roman, cette promenade, ce voyage déjà dans le temps et dans l'espace, parce que ils se sont aimés. Ça a commencé d'ailleurs par une espèce de road trip où il ne savait pas trop bien Edgar pourquoi il partait avec ses copains en voiture vers l'Est, vers la Russie, vers l'URSS à l'époque.
Alors d'abord, je suis très heureux de m'exprimer sur la première radio.
Je sens qu'on va pas avancer aujourd'hui. Ça va être, on va rester au type du livre.
C'est impressionnant quand même. Hein. Ouais. Oui, en effet, c'est un road trip si on veut. C'est-à-dire que je me suis.
Le début, par... oui. Enfin,
ouais, le début, oui.
Il y a beaucoup de voyages, mais c'est vrai
fait,
que c'est.
Tout à fait. Moi, je suis parti d'un livre de Dominique Lapierre, hein, auteur de La Cité de la Joie, qui a 30 ans, même pas, avec un grand photographe et mort peu de temps après de match, qui a été tué à Budapest. Là, avait traversé l'URSS en voiture, dans une espèce de grosse bagnole, comme on a, voilà, quand j'étais petit, on avait des voitures comme ça, les Simca, vous savez, qui portaient les noms des châteaux de la Loire.
Il y avait la Versailles.
Il y avait
la Régence.
Voilà, oui, il y avait la Marly.
J'ai bien connu.
La Chambord aussi.
La Chambord.
Voilà.
Et la Marly.
Voilà, eux, c'était une Marly.
Ça
ressemblait à une baignoire. Enfin, c'était, voilà. Ah. Et ils ont traversé l'URSS de l'époque, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que la Russie, il y avait aussi l'Ukraine, et en Ukraine, en effet, se fait cette rencontre.
Oui, mais dans les conditions bien particulières de l'époque, c'est-à-dire on sait que des étrangers qui incarnent le mal, le capitalisme, l'ennemi va débarquer et voilà. On prépare. D'abord, un guide les accompagne.
Voilà, c'est le village Potemkin, c'est-à-dire qu'il y a un type qui passe avant en disant attention, ces gars-là, il ne faut pas leur parler. Alors les paysans sont là, ils approchent et puis évidemment, ils se tiennent à carreau parce qu'ils ont, peur. Et là, l'héroïne, Ludmilla, elle, c'est une fille qui n'a plus rien à perdre, en quelque sorte, qui est très très malheureuse dans son monde, là, et qui a envie de partir, et elle se dit c'est peut-être ma chance.
On va préciser que pour éviter de subir des assauts assaut et ou une agression sexuelle, elle simule la folie au point d'être extrêmement crédible, de faire peur d'ailleurs aux autres paysans du village.
Parce que c'est une jolie fille, mais qui personne finalement ne protège et qui pourrait se trouver la proie un peu de. Alors elle se balade dans la campagne et puis elle a l'habitude de grimper dans les arbres comme ça pour être tranquille. Et quand elle sait que cette voiture arrive, eh ben elle se dit c'est ma chance. Alors la nuit, elle vient, il y a un arbre au milieu de la
place.
La place, oui, merci.
Je vous en prie.
Et
première radio de France, on a la parole des gens.
Si on peut être là, si on peut aider un tout petit peu.
Il y a une assistance automatique, c'est formidable, c'est bien.
C'est ça.
Et donc elle grimpe dans l'arbre et puis elle se déshabille et pour attirer l'attention en quelque sorte.
Alors c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire que finalement ce sont les paysans eux-mêmes qui, en l'observant, en ayant peur de se faire surprendre par les étrangers, vont attirer l'attention de cette voiture.
Elle crée un incident parce que c'est le meilleur moyen finalement. C'est la voiture arrive, finalement elle aurait pu passer comme ça, mais les paysans sont là, ils se disent mais qu'est-ce qui va nous arriver, cette fille fait un scandale, donc ils sont tous autour de cet arbre pour lui dire de descendre, et c'est comme ça qu'effectivement l'incident est créé et que la rencontre se fait
et que Edgar va avoir une sorte de coup de foudre, parler la langue, sans comprendre ce qui se passe, uniquement dans un échange de regards.
Oui, mais c'est un coup de foudre qui est à la fois lié à la séduction, c'est-à-dire à ce regard, mais aussi à la culpabilité,
à la
parce qu'il ne saura pas la défendre, c'est-à-dire qu'il va assister sans rien faire, et au fond, cette impuissance, cette espèce d'échec au fond devant la personne qui en même temps le séduit, c'est un truc extrêmement paradoxal, mais qui, je trouve, d'un point de vue romanesque, est très puissant, parce que du coup, c'est ce qui va le faire revenir.
Et là, non, ce qu'on vient de raconter, j'ai envie de dire, c'est pratiquement les deux premières pages du livre. On est vraiment au tout début de cette histoire qui va en effet se poursuivre en une histoire d'amour, de désamour, de divorce, de mariage, de remariage, de fortune, de faillite, de vol, de mensonge, de célébrité, de paparazzade.
Il y a un casting aussi à l'intérieur, c'est assez impressionnant.
Il y a du monde et puis il y a l'histoire. Il y a l'histoire de révolution, de 68, de réussite, de krach boursier. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce voyage. On va en parler, Jean-Christophe, mais d'abord... Non, pardon, excusez-moi, non, mais on ne voulait pas dire que nous étions
leader
les plus écoutés.
Toto.
Commençons par des questions concernant Jean-Christophe Ruffin. Pourquoi petit Jean-Christophe avait peur de se moucher ?
Peur de perdre son nez.
Parce qu'on avait raconté que son cerveau pouvait sortir comme Roland dans la chanson de Roland.
Non.
Parce que quand il souffle dans le corps, il a son cerveau qui sort.
Non, mais c'est pas ça, c'est bon.
Non.
Mais moi, je suis sûr que c'est un peu ça quand même.
Il avait peur de mourir.
Pardon ?
Il avait peur de mourir.
Non, il avait peur d'une incidence physique.
De saigner du nez ?
Non.
De perdre ses yeux.
Tu saignes du nez quand même.
Quand tu te mouches très fort.
Il faut arrêter la cocaïne. Il faut
devenir sourd.
De devenir sourd, exactement. Exactement. Légende urbaine.
J'ai un côté otorino, vous savez.
ORL, tu veux dire.
Qu'est-ce que vous dites
Votre grand-mère vous disait vraiment ça, ne te mouche pas trop fort.
Oui, mais je m'étonne d'ailleurs. Vous avez connu ma grand-mère C'est vraiment la première radio de France.
C'est impressionnant.
On est au courant de tout. Mais c'était quoi une manière de... C'est comme on dit, ne fais pas de grimaces avec ta bouche, tu vas rester déformé.
Non mais il y a
tout ce qu'on raconte aux enfants.
Les formes de staches, vous savez, qui font communiquer.
Ce qui est vrai.
Voilà. Alors ça peut arriver, mais enfin, je pense que c'était un moyen surtout de me dire de
faire moins fort.
Oui.
Mais ce qui fait qu'à la fin, quand vous étiez véritablement malade, vous n'osiez même plus vous moucher. Ce qui est quand même le premier conseil qu'on donne, c'est de faire des pchites à l'eau de mer, là,
nettoyer. Ah, c'est docteur Nagui rentrant en scène.
Mais non Mais tu sais quoi Mais c'est pour ça qu'on est premier.
Il n'y a pas de secret, quand on sait tout faire.
Avec quoi Jean-Christophe Ruffin marie-t-il l'écriture pour lui.
Les bolognaises.
L'alpinisme.
La marche.
Alors, pas loin, mais
le
tout
sport.
Ça.
La randonnée.
Exactement, le sport. Ouais, le sport. La marche.
Plutôt la grimpe, on va dire. Plutôt
la grimpe.
La grimpe.
D'où le mot que j'ai découvert dans votre livre, puisque c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il y a toujours des mots, le plaisir des mots de la langue française, les enfractures. fractuation, c'est ça?
Fractuosité.
En fractuosité.
Eh ben, écoute, je l'avais pas.
C'est bien de le dire.
Je suis allé prendre mon dictionnaire.
Première radio de France, mais premier modeste de France.
Mais écoute, je le dis. Et donc, j'ai découvert que c'était un terme d'alpinisme. Oui, c'est creux que l'on peut avoir dans la roche.
C'est tout le relief, les trous, etc., qui permettent de.
Qui permettent à l'humina de grimper dans l'arbre et à vous de grimper dans la montagne.
Les prises. Qui deviennent des prises quand on veut grimper.
Pour en revenir à la surdité, aux trompes de Stache et à l'oreille interne, pas de vertige, pas de problème dans l'altitude, jamais aucune crainte.
Au contraire, moi j'aime le vide, j'aime la verticale.
C'est pour ça que vous venez nous voir souvent. Attiré par le vide. Voilà. Bienvenue.
Non, justement, la verticalité, c'est une radio debout.
Voilà, mais il aime les sommets, donc il est. Voilà.
Non, mais ça vous est venu comment ce plaisir du sport et surtout, quel lien trouvez-vous à l'écriture et à l'activité physique?
D'abord, j'ai besoin de ça parce que je ne peux pas tenir en place, même quand j'étais enfant et tout ça, je ne tenais pas en place. Et moi, je peux travailler par exemple 1 heure, 2 heures. Mais au bout d'un moment, j'ai besoin de sortir, d'aller me balader, d'aller marcher, grimper, etc.
On a besoin de l'air dans ces cas-là.
Non, mais pas seulement ça. J'ai besoin d'un mouvement presque physique. D'ailleurs, j'écris à la main, ce qui est même un travail physique, parce que un livre comme ça de 400 pages à la
main. On a une crampe. L'expression est là.
Moi, j'ai pas de crampe parce que je suis habitué, mais c'est un vrai effort physique.
Ouais, hein.
Et moi, j'aime ça. J'aime ce contact un peu.
Est-ce que le sport, l'endomorphine que vous sécrétez dans l'activité sportive, quand vous faites du vélo, si vous parlez de verticalité, mais il y a aussi l'horizontalité du vélo. Est-ce que ça permet à l'esprit, on en avait parlé ici avec Sylvain Tesson, et moi et Bonne, c'est qu'on commence à mouliner
qui
justement.
Beaucoup d'ailleurs,
vous l'avez fait ensemble d'ailleurs. Est-ce qu'on a l'esprit qui lui aussi se balade et on crée et on a des idées en faisant du sport?
Je suis pas sûr. Je pense que ça a été, c'est plutôt une sorte de, là encore, de vide. C'est-à-dire que c'est plutôt une manière de créer une sorte de table rase et d'éliminer tout ce qui est parasite dans la vie, parce que l'actualité, parfois il y a des bonnes nouvelles comme aujourd'hui, mais c'est pas toujours le cas. On est envahi par des tas de choses qui vous empêchent de rêver en réalité. Et je trouve que le sport, et en particulier en montagne, parce que c'est des efforts physiques très intenses, c'est un effort total, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'arrêter, c'est pas comme au tennis, vous posez la raquette, vous arrêtez, quand vous êtes en montagne, il faut rentrer, donc il y a une sorte d'immersion et d'énergie qui au fond vient à bout de tout, quoi. Donc il ne reste rien d'autre que le rêve, quand vous y mettez du rêve, mais c'est pas tout le temps le cas. Mais il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'encombrement.
Sylvain Tesson nous parlait de la marche comme étant un moyen. Et puis,
lui, il marche beaucoup plus que moi.
Les auteurs marcheurs sont nombreux aussi.
Pensée déambule aussi.
Ouais. Moi, je suis pas sûr.
C'est moins votre cas, d'accord.
Ouais, c'est-à-dire que on parle souvent de ça quand on grimpe ensemble l'été. Ce qui le fait rire, je crois que c'est Paul Valéry qui a dit, quand on est en altitude, on n'a que des pensées élevées. Alors que très sincèrement, quand on grimpe ensemble, on ne dit que des conneries. C'est même l'activité principale. Donc, je crois pas que
je me suis dit en lisant le livre. Non, pardon. Alors, justement, pour Sylvain Tesson, quelle ascension improbable ont-ils faite ensemble?
Notre-Dame.
Pas Notre-Dame. Non, ils n'étaient pas ensemble pour Notre-Dame. Non. C'était pas avec Jean-Christophe.
Pardon?
C'est un bâtiment?
Le toit de la maison de vacances. Non. La maison de vacances, non?
Non.
La Tour Eiffel?
Non.
Une église à Paris? Oh mon Dieu, le Sacré-Cœur? Non.
Saint-Sulpice?
Non. Reims? Une cathédrale?
Non. Sacré-Cœur?
Non.
Ah, Saint-Eustache?
Cathédrale de Reims?
Pas à Paris. Strasbourg?
Non.
Une cathédrale? Non.
Poitiers?
Dans une île?
Non. Oh bah non, bah arrêtez!
Oh,
c'est fini.
Alors, enfin.
Mais c'est possible. Oui, t'as pas trouvé non plus.
Non, j'ai bien aimé.
Les îles, Groix.
Non.
Quoi, une île? Bah, la Corse.
Ah, mon Dieu, Saint-Malo. Enfin, le Mont-Saint-Michel.
Oui,
Marina.
Ah,
mais c'est dingue, ça.
Absolument.
Incroyable.
Vous êtes partie de la plage.
C'est-à-dire qu'on était, en fait, on était au salon du livre de l'étonnant voyageur de Saint-Malo. Ouais. Moi, je venais d'avoir le prix Goncourt. J'ai qu'une peur, c'était de me faire attraper. Et on est parti.
Excuse-moi.
En train de grimper.
Oui, parce qu'on n'a pas le droit. Et Sylvain m'a dit, cette nuit, on va faire le Mont Saint-Michel.
La table d'obsédés sexuels. Attendez, je vais faire attraper par qui, comment, où.
On avait d'autres soupçons, en fait.
Non, attrapé par la police.
On n'a pas le droit.
Ben, pas loin.
Parce que vous, il faut préciser, parce que vous ne l'avez pas dit, vous êtes monté jusqu'à l'archange.
Jusqu'à la flèche, oui. Oui. Alors, je dis ça avec prudence, parce qu'il semble que l'enquête à Notre-Dame s'oriente vers, justement, les intrusions nocturnes. Hein. Je pense qu'il y a des...
Ah bon, je crois qu'il y a un court-circuit, moi.
Ben, ils cherchent aussi assez nettement du côté des... Oui, parce que c'est vrai que, bon, nous, on a...
Vous étiez où le soir du drame? Oui. Non, parce que, voilà, si on peut filer un coup de main.
Non, j'écoutais la première radio de France.
Ah, très bien.
Non, en fait, le Mont-Saint-Michel, on l'a fait. Sylvain m'avait dit, on va faire ça cette nuit. Et puis, je lui ai dit, mais t'as le matériel et tout. Il m'a dit, oui, oui. Et il a eu cette phrase magnifique. Parce que je lui ai dit, comment on va s'assurer? Parce qu'il faut grimper. Et il a eu une phrase magnifique. Il a dit, je ne pitonne pas dans le gothique.
Et en effet, il a... C'est un titre.
Je ne pitonne pas dans le gothique.
Et alors, si, on était encore des, mais alors, on s'attachait aux gouttières. Et alors, on est arrivé dans le clocher. À un moment donné, ça s'est allumé parce qu'il devait y avoir un curé qui s'était réveillé ou je sais pas quoi. Et on était un peu tétanisés. Puis j'ai dit à Sylvain, bon, on descend. Puis il a trouvé une trappe, on est monté. Et là, on était dans ce petit clocher. Alors on commence par un tout petit truc en collimation, puis ça devient de plus en plus étroit. Puis après, on sort par une petite. Il y avait des petits jours dans ce. Parce que quand vous êtes dans une flèche comme ça, à un moment donné, vous ne pouvez plus être à l'intérieur. Il y a des picots à l'extérieur et on a touché l'archange. Et à 3 heures du matin. Ça a été un bonheur extraordinaire. Alors moi, c'est la seule fois que j'ai fait ça, hein, mais je comprends qu'on puisse.
Mais vous comprenez que ce soit illégal.
Alors oui, tout à fait, bien sûr.
Ah, vous baissez les yeux, c'est mignon.
Il y a prescription pour un crime comme ça.
Concours, académicien, délinquant, enfin bon, voilà, il y a toutes
tout,
les qualités.
Tout pour plaire.
Non, mais c'était une très très belle expérience. Je comprends qu'on ait envie de faire ça, mais je comprends aussi qu'on arrête, quoi, parce que c'était quand même assez dangereux. Après, on a tiré un rappel devant la chapelle.
Enfin. Allez, dernière question concernant Jean-Christophe Ruffin. Il a déclaré, et je vous demande de quoi parle-t-il, en disant « Elle m'a tenté, j'ai eu des propositions. »
Le cinéma, la réalisation.
Mais j'ai toujours refusé.
La réalisation...
La drogue.
La télévision.
Non, ça, il a accepté. Ah. Elle m'a tenté, j'ai eu des propositions, je les ai toujours refusées.
La mort.
Non, mais non.
La radio.
Devenir plus mercantile d'une manière ou d'une autre, mais je sais pas quoi.
Qui nous a raconté cette
citation. Et Géry Fleury Michon.
Cette citation d'Alphonse Allais. J'ai décidé de devenir immortel et pour l'instant, mon plan fonctionne à merveille. Quelqu'un nous a raconté cette citation d'Alphonse Allais.
C'est la célébrité, Allais. Non, c'est quoi,
non.
Je pense que c'est Cluzet.
Oui, c'est François qui parlé.
C'est qui, tu dis? Non.
Elle m'a tenté.
Laurence Bloch.
C'est toi qui avais dit ça, Albert?
Non, je crois que c'est Cluzet.
Ah, pardon. Ah, d'accord, c'est possible. Sinon, tu nous as donné quoi comme réponse?
Je me souviens plus.
Ah, j'ai oublié. Il paraît que tu l'as dit, la bonne réponse.
C'était le cinéma, scénario.
La politique.
C'est Albert qui l'a dit, oui. Elle m'a tenté, j'ai eu des propositions en tant que ministre de la Culture?
Non.
En tant que quoi?
Pour être ministre de la Culture, il faut être incompétent.
Notre ministre de tutelle. Enfin.
Francky.
Mais qu'est-ce qui vous arrive, Jean-Christophe?
Non, mais je veux dire. Je dis ça parce que, je veux dire, depuis Malraux, moi,
vous trouvez qu'il n'y a pas eu de mise à culture
depuis?
Il n'y a
pas vraiment de mise à culture. Enfin, il y a
Jack Lang.
Ils font le boulot. Oui, Jack Lang. Oui. Ils font le boulot, mais les ministres de la culture aujourd'hui sont plutôt des ministres de la communication. C'est des gens qui...
Mais alors, si vous trouvez justement que les politiques ne font pas bien leur boulot, pourquoi ne pas accepter pour montrer justement ce qui serait possible?
Non, parce que c'est une vie, être politique. C'est une vie. C'est un engagement. D'abord, c'est une limitation de la parole. C'est-à-dire quelque chose de contradictoire entre s'exprimer, écrire, la liberté que ça suppose, parce que moi je me sens complètement libre quand j'écris des livres, et puis les contraintes d'une politique, de devoir assumer un programme, de pouvoir la langue de bois, tout ça, je pourrais
pas. Mais justement, si et quand vous étiez ambassadeur, quand vous étiez...
Mais là, c'est un CDD. Ouais, c'est non, pour 3 ans.
Mais pardon, vous avez dû forcément aussi avoir une langue de bois, avoir des comportements diplomatiques, ce qui est la manière polie de dire faire des mensonges, et ça ne vous empêchait pas d'être libre d'écrire ce que vous vouliez.
Oui, quand même. Si, c'est pas si simple.
Même dans l'écriture, il y avait une retenue.
Ben oui, parce que on est quand même dans un carcan, une contrainte. Et j'ai pu écrire un livre pendant que j'étais ambassadeur, mais je ne l'ai publié qu'après. C'est-à-dire que parce que d'abord, ça se terminait par une bombe au Quai d'Orsay. Donc, si vous voulez, j'étais un peu voilà.
Encore dans l'illégalité, faites soupçon encore.
Non, d'autant plus que la description que je faisais des chemins pour entrer dans le bureau bureau du ministre, etc., était tellement vrai, puisque c'était de l'observation directe, que les mesures de sécurité ont été complètement renforcées après ce livre, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en effet, c'était très très facile d'entrer à l'hôtel du ministre, parce que c'était un des coins les moins protégés, en réalité. Alors qu'après, ils ont mis des portiques et tout. Donc tout ça, si vous voulez, je n'ai pu me le permettre que parce que j'étais sorti du système. Mais si j'étais resté dedans, j'aurais jamais pu écrire ça.
Alors justement, à propos d'écriture, les 7 mariages d'Edgar et de Ludmilla, chez Gallimard, 7 déjà, on peut s'arrêter sur ce chiffre magique, porte-bonheur, symbolique, ce sont les péchés capitaux aussi, ce sont les jours de la semaine, enfin il y a...
Les collines,
les samouraïs.
Les nains, les mercenaires, les samouraïs, très bien, merci. Voilà. Mais pourquoi, alors, ce 7-là, parce que ce chiffre est magique?
Non, en réalité, je savais pas, peu importe ces mariages, en réalité, c'est une histoire d'amour sur 50 ans.
Ouais,
Alors, ce qui m'intéressait, c'était de montrer que les séparations faisaient aussi partie de l'histoire. C'est-à-dire qu'à certains moments, ils sont ensemble, d'autres moments, ils se séparent. Mais au fond, c'est la même histoire qui continue. Alors, il se trouve qu'en racontant les choses, ils se séparent pour des raisons qui sont logiques à chaque fois. Et puis, il y en avait 6. Je me suis dit, 6, ça suffit pas. On va en rajouter une 7e.
On va pas dévoiler le 7e.
Mais la 7e, elle est justement là pour donner cette espèce de
d'espoir
voilà pour
d'accord
après.
Il y a quand même des situations qui sont un tout petit peu improbables, que ce soit dans les causes de la séparation ou dans la raison de se remarier une nouvelle fois, une N plus unième fois. Et puis il y a différents mariages. C'est une manière aussi de montrer qu'il y a différents mariages dans une vie, ou qu'une histoire d'amour peut passer par toutes les épreuves possibles imaginables, qu'elles soient d'ailleurs humaine, qu'elle soit
relationnelle,
qu'elle soit financière.
Non, mais je pense pas que ce soit improbable. Au contraire, c'est, si vous voulez, les choses s'organisent de façon logique. C'est-à-dire qu'il y a une logique qui n'est pas, qui est celle de l'affect, c'est la logique des émotions. C'est pas forcément une logique extérieure comme ça. Effectivement, ils conduisent pas leur vie de façon très très logique. Mais par exemple, premier mariage.
Non, mais premier mariage.
Premier mariage, il la sort de ce pays. Bon,
il l'achète d'une certaine façon.
D'une certaine
même.
Manière, il la rachète ou il l'achète, mais du coup, ça crée un lien entre eux qui est très, très asymétrique. Ouais. C'est-à-dire qu'elle, elle est là, et il est supposé le remercier, puis lui, au contraire, c'est le sauveur.
C'est ça.
Ça peut pas marcher.
Ouais.
Donc, inévitablement, il y a séparation, puis on rebat les cartes, et quand ils se retrouvent, c'est sur des bases différentes. C'est ça qui fait la logique de
la la séparation se fait aussi, il se bat pas énormément, il a un petit pincement au cœur, mais c'est par son envie de réussite aussi professionnelle, et parce qu'ils ont pas le même, le même épanouissement social.
Mais parce que leur vie sociale...
Elle n'est pas encore devenue la voie qu'elle sera. Ouais.
Non, parce que leur vie sociale, et ça je crois que tout le monde l'observe dans sa vie, c'est que la vie sociale interfère de façon très violente avec la vie affective. Mmh. Et les ambitions, les contraintes de la vie sociale, c'est des choses qui sont pas très très favorables aux histoires d'amour. C'est quelque chose qui sépare qui peut parfois même faire casser les couples, puis au fond ils ne seront jamais si bien ensemble que quand ils auront d'une certaine manière tout perdu.
Parce que là en réalité le premier mariage en effet ne fonctionne pas parce que lui en tant qu'homme aussi, et ça c'est sociétal, considère que c'est lui qui doit pourvoir aux besoins de sa femme, qu'elle vienne de l'Est ou pas dans tous les cas, et qu'elle ne peut l'aimer que si elle est admirative de lui parce qu'il aura réussi socialement à gagner de l'argent, à dépenser sans compter et à lui montrer que la vie ça peut être simple avec lui.
C'est l'histoire d'une époque aussi.
C'est ça.
On est dans les années 50-60. Le rôle masculin à l'époque, bon, je dis pas que c'est complètement cessé, enfin, à l'époque, il est tout à fait clair que c'est institutionnellement comme ça. L'homme
ramène
est le
l'argent
chef
à la
de
maison.
Famille.
Ouais.
Oui. Moi, je me souviens,
c'est l'homme des cavernes.
L'homme des cavernes.
Il va à la chasse, il ramène la nourriture.
Ma propre mère qui a sorti de ce schéma, parce qu'elle a divorcé très tôt, elle était mise à travailler, elle avait ouvert un compte dans une banque, dans une grande banque, et c'était un des premiers comptes femmes. Oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans cette banque en tout cas, le chef de famille avait le droit d'ouvrir un compte. Et c'était l'homme. Et vous voyez, c'est des choses.
La femme avait le droit sur autorisation de son mari.
Jusqu'en 64. C'est dingue. Voilà. C'est totalement dingue.
Mais l'argent était mieux géré. Hein.
mais alors justement, en parlant d'argent, les deux sont issus de conditions sociales extrêmement modestes. C'est aussi l'histoire de la réussite des deux.
Ouais, cette ascension.
Ben c'est aussi cette Trente Glorieuses qui c'est l'histoire en effet de chance qui a été donnée à des gens qui pouvaient à l'époque vouloir entreprendre, qui avaient une certaine forme d'ambition. Mais c'est pas non plus lui, par exemple, qui va entrer dans les affaires. C'est pas un capitaliste de type du 19e siècle. C'est pas un maître de forge. C'est quelqu'un qui va acheter des entreprises, les bricoler. Enfin, c'est l'époque.
Qui va même magouiller.
Qui va faire faillite, qui va racheter des trucs. C'est la vie un peu à la tapis. Je veux dire, c'est clairement.
En fait, le parallèle d'ailleurs dans le bouquin.
C'est en effet, il y a aussi trois points de vue. Il y a la narration du point de vue de ce que vit Edgar, de ce que vit Ludmilla, et puis il y a aussi la vie du couple. C'est comme un roman à trois personnages.
Parce que au fond, ce couple, quand il se constitue et même quand il se déchire, est une sorte de personnage à lui tout seul. C'est-à-dire qu'il y a leur histoire qu'on pourrait raconter isolément.
Même une même scène n'est pas vécue de la même manière. Je pense aux événements de 68
quand la voiture est détruite
sur le pont pas loin de Notre-Dame de Paris que vous évoquez. Il y a ce moment où lui a le sentiment de tout perdre et de retomber là où il en était avant, c'est-à-dire
forme de dénuement,
se retrouver à pied sans le symbole de la richesse et de sa voiture, et lui le vit mal et elle le vit comme au contraire un moment de lâcher prise.
Oui, parce qu'elle essaie de lui montrer que finalement elle n'est pas avec lui pour des raisons matérielles, alors qu'il a voulu faire un super mariage.
Elle jette même sa cravate dans la Seine. Pollution.
Non, mais il avait loué une super bagnole, etc., pour lui montrer qu'il allait enfin pouvoir l'entretenir comme il devait, etc. Et puis, il tombe sur une manif, la bagnole se fait caillasser, enfin bref. Et du coup, il perd de tout. Et c'est vrai qu'elle trouve ça plutôt sympa, finalement. Ils sont, pour une fois, ils sont à l'égalité.
D'ailleurs, un des plus beaux divorces du bouquin, parce qu'on célèbre toujours le mariage, mais c'est important de célébrer les divorces, parce que sans divorce, c'est pas de mariage. Le plus beau divorce du bouquin, c'est quand elle décide de le quitter parce qu'elle considère qu'il n'a pas à l'entretenir et à s'inquiéter de son sort en permanence, et que ça ne la rend pas heureuse. Que se préoccuper d'elle ainsi, c'est pas une forme d'amour, en tout cas c'est pas comme ça qu'elle l'entend. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux personnages issus en effet de conditions très modestes ne sont pas mus par la même chose dans la vie en réalité. La réussite,
la même manière de s'épanouir,
la réussite amoureuse ou sociale en tout cas ne passe pas par les mêmes chemins. Vous êtes inspiré de qui pour créer ces deux personnages?
C'est le moment de balancer, là, Jean-Christophe. Vous n'êtes pas entré en politique, s'il faut dire la vérité.
Dans quoi est-ce qu'on puise pour écrire un roman, sinon dans sa vie?
Son histoire,
Et c'est vrai que, j'ai sans doute traversé des moments comme ça. En tout cas, j'ai peut-être eu besoin aussi qu'on me fasse comprendre des choses.
Ouais. Vous étiez un peu Edgar?
J'ai certainement été.
Vous avez un côté Ludmilla aussi.
C'est les yeux, ça.
Oui, le regard.
Il se passe un truc entre vous.
C'est vrai, je ne sais pas comment je dois avancer.
Très mal.
Vous êtes sur la première radio.
Non, mais c'est vrai que c'est un livre qui est très personnel parce qu'il fait écho à des tas de choses. Il est certain que.
Jean-Christophe, vous êtes marié combien de fois?
Ben, je me suis marié 4 fois. Moi.
Avec la même?
Non, 3 fois avec la même, et une fois avec une autre. C'est beaucoup. Mais c'est suffisant, justement, pour...
Apparemment, il vous en manque 3.
Ah, il en manque.
Il en manque 3, oui.
Mais 3 divorces avec la même.
Mais c'est pas fini,
hein.
En plus.
J'étais en pleine forme.
Merci. Ouais.
Donc, il y a vraiment des situations qui sont tirées de votre histoire.
C'est-à-dire que...
Curieuse, va.
Cette idée de...
Ça m'intéresse.
Quand je raconte, si je dis ça, je me suis marié 3 fois avec la même femme, ça fait rire, c'est tout. Ça n'explique rien. Pour expliquer les choses, il faut recourir au roman, parce que la littérature, c'est ça qui est merveilleux, c'est que ça permet d'entrer dans la... dans la tête des protagonistes.
Et puis chacun peut s'identifier aussi à l'une de ces nombreuses et multiples situations.
Absolument, absolument. Et ça montre que, surtout que c'est pas de la folie, c'est pas des caprices. Il y a une logique à ça. Alors après, on n'est pas obligé de se marier, de passer devant le maire ou le curé, mais il y a
et une... on n'est pas obligé de divorcer. On peut aussi.
Et on n'est pas obligé de divorcer non plus. Quoi
on peut se séparer, c'est tout.
Quoi qu'aujourd'hui, là, tout concourt à ce que.
Ou les compromis aussi. Oui, ça existe.
Oui, mais parler toi.
C'est vrai qu'aujourd'hui, le divorce.
Et la polygamie aussi.
Oui, mais le divorce est devenu très très facile, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de, enfin, en termes de procédure.
Par rapport à nos parents, nos grands-parents, oui.
Ben, c'est sûr. Et même par rapport à il y a 30 ans.
Ouais. Et c'est plutôt bien d'ailleurs que ce soit plus facile.
Oui, c'est plutôt bien, mais ça, du coup, ça fragilise effectivement et ça fait en sorte qu'il peut y avoir des étapes et qu'une histoire n'est pas terminée quand il y a un divorce.
On va continuer de parler évidemment de ces 7 mariages d'Edgar et Ludmilla chez Gallimard, signé Jean-Christophe Ruffin. Ça va être un succès, John Jack.
Évidemment, mais bien plus qu'un succès, très cher Nagui, ce roman sera un triomphe, comme celui de France Inter aujourd'hui. Voilà. Merci pour elle. Tout d'abord, en raison des multiples talents de Jean-Christophe Ruffin, homme de plume, écrivain, alpiniste, académicien en habit vert, médecin neurologue, cycliste, mari à répétition, ambassadeur réputé pour ses réceptions, tant au Sénégal qu'en Gambie, qui lui valurent d'être surnommé Seigneur Ferrero. En raison aussi d'une plastique irréprochable. Quel physique! Au risque de paraître vulgaire, je dirais, cher Jean-Christophe, que vous êtes gaulé grave. Mais revenons aux 7 mariages d'Edgar et Ludmilla, roman qui démarre sur les chapeaux de roue, dans une marlée, on l'a évoqué, couleur crème et rouge, bref, au merveilleux design, et qui n'a rien d'une baignoire, je suis désolé de le démentir, sorti des usines Simca de Poissy. Je salue au passage mes compatriotes Pissiaké, puisque je suis né là-bas. Juste un détail, cher Jean Cricri, vous d'habitude si précis dans vos descriptions, vous avez omis de signaler les deux strapontins perpendiculaires à la route. Une belle paire d'une audace folle à l'époque. Mais pourquoi vous parle-je de la Marlie? Coïncidence extraordinaire. C'est dans une Marlie bicolore que mon cousin Jack, que vous avez salué tout à l'heure, et moi-même, à 18 ans, nous avons quitté ma province, les Vosges profondes, bien décidés à empoigner la vie, le cœur léger, le bagage mince, nous étions certains de conquérir Paris. Un peu, mais oui, j'ai cité l'autre, ce génie, un peu comme Edgar et Ludmilla, dont vous narrez les destins croisés et décroisés. Liés et déliés, mêlés et démêlés, noués et dénoués, attachés et détachés, entrelacés. Bref, un homme et une femme, mariés et divorcés, remariés et redivorcés, re-remariés et re-redivorcés, re-remariés, re-redivorcés. Bref, outre la Marlie bicolore, pas bicolore, si j'ai kiffé à donf votre roman, cher Jeannot, c'est parce que j'ai été frappé par une autre coïncidence inouïe.
Quoi ?
En effet.
Quoi ?
Il suffit de mettre tout un passage de votre livre au masculin pour qu'il corresponde mot pour mot à ce qui se passe tous les jours dans le bureau de la bande originale.
Qu'est-ce qui se passe encore ?
C'est à la page 187, je cite. Sa méthode était le mépris. Il réagissait par des remarques froides, désobligeantes, trouvant des mots pour le blesser profondément, comme si l'expression de cette souffrance lui eût procuré une satisfaction mauvaise. Oui, vous l'avez compris, c'est là le tableau saisissant de la soumission. Humiliation, vexation, mortification,
que des mentions
dans lesquelles nous sommes tous tenus par Nagui, bien que nous soyons première radio France. Alors je vous crie, help, docteur Jean-Jean, à l'aide, bonne émission.
Merci, Albert. La bande originale. Et dans cette bande originale, nous recevons Jean-Christophe Ruffin pour parler des 7 mariages d'Edgar et Ludmilla, des histoires d'amour, de désamour, de famille aussi, de transmission avec leur enfant et la manière d'éduquer la fille.
La pauvre Ingrid.
Pour ne pas qu'elle vive finalement ce qu'eux-mêmes ont vécu. Est-ce que l'expérience des parents sert aux enfants? Et tout ça, c'est avec une toile de fond historique, parce que vous aimez aussi l'histoire, ses détails, et surtout la manière dont elle est vécue par les petites histoires, quoi, les individus au milieu de la grande histoire.
Oui, mais c'est pas de l'histoire avec un grand H. Je me suis beaucoup posé la question, ça, en écrivant d'autres livres qui se passent dans un passé lointain, par exemple Le Grand Cœur ou autre.
Comment l'humain vit ce qui se passe au niveau planétaire.
Ouais. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je me suis toujours demandé quand commencer l'histoire avec un grand H. Par exemple, quand on fait un récit, et c'est toujours au passé en général, donc quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans, est-ce que c'est de l'histoire? Mmh. Et en fait, là, avec ce livre, j'ai compris une chose, c'est que l'histoire, ça commence dans les périodes qu'on n'a pas vécues soi-même. C'est-à-dire que là, ce n'est pas de l'histoire, c'est des souvenirs. C'est autre chose. C'est-à-dire que cette période,
donc,
je l'ai vécue. Qu'il
y a plusieurs générations.
Voilà. Non, mais bah, ça me frappe quand je vois des écrivains de 30 ans qui écrivent sur les années 60, par exemple. Ils parlent de l'histoire, ouais. Parce qu'ils n'ont pas vécu ça. Mmh. Et moi qui l'ai vécu, je me dis, ah, c'est pas tout à fait comme ça.
Vous écrivez tout le roman comme une espèce d'enquête, d'entretien,
voilà,
de journaliste.
Voilà, mais de quelqu'un qui a vécu tout ça.
C'est ça.
Et en fait, moi, j'ai pas du tout l'impression de faire une enquête historique, tout ça, mais j'ai pas puisé d'ailleurs dans une documentation particulière, j'ai puisé dans mes souvenirs, tout simplement. C'est-à-dire que la Marly dont on parlait, à Versailles, je l'ai vécu, j'étais à l'arrière quand j'étais petit, j'ai vomi dans les virages et tout ça. Comme tout le monde. C'est-à-dire que j'ai vécu ça.
Vous êtes allé au musée de l'auto à Mulhouse pour aller observer des modèles
aussi.
Oui,
mais parce que c'est l'histoire d'un siècle ou d'un demi-siècle, plus exactement, qu'un certain nombre d'entre nous, et en tout cas moi, on a vécu. Mmh. Et donc, si vous voulez, mai 68, je sais pas, l'arrivée du général de Gaulle, c'est la Calasse, tout ça, c'est des choses, pour moi, qui sont pas du tout de l'histoire. Enfin, c'est devenu de l'histoire, et pour des plus jeunes, c'est de l'histoire. Mais pour moi, c'est ma vie.
Votre mémoire.
Et c'est ce qui est troublant, d'ailleurs, dans le roman, c'est que ce récit, avec ses références historiques, historiques pour moi, parce que je les ai pas nécessairement vécues, ou de souvenirs, c'est des références réelles. On a parlé tout à l'heure de Bernard Tapie, le père de Sylvain Tesson est évoqué aussi, comme celui qui fait une critique dithyrambique sur la prestation de l'interprète. Il y a Valérie Giscard d'Estaing. Et à côté de ça, on a Edgar et Ludmilla. Donc en fait, vous nous perdez aussi au fur et à mesure. On peut se demander si vraiment le narrateur... Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est des personnes que vous connaissez vraiment?
Une petite postface pour préciser un peu ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y a plusieurs lecteurs qui m'ont dit qu'ils étaient partis sur Wikipédia pour aller
chercher.
Voir s'ils avaient existé.
C'est tentant. C'est
parce
tentant.
Que c'est vraiment un couple qui est enraciné dans cette époque. Et je ne voulais pas raconter les choses de son point de vue à elle ni de son point de vue à lui. Je voulais une troisième personne qui soit une personne qui ne soit pas omnisciente, parce que comme c'est une histoire d'affect et d'émotion. Eh bien, il faut qu'on puisse ne pas tout savoir. Donc, il fallait quelqu'un qui enquête et puis qui ignore certaines choses, qui en apprenne d'autres, mais qui en ignore. Donc, j'ai pris le gendre, en fait, en l'occurrence, le mari d'Ingrid,
et
c'est lui qui raconte. Voilà.
Jean-Christophe Ruffin est notre invité, Les Sept Mariages, Edgar et Ludmilla, chez Gallimard. Et voici Maria Romain.
Ah,
oui.
Merci les amis. Alors hier je dînais avec des amis et je me suis dit quand même les Français, s'il y a un truc qu'on peut pas vous enlever, un truc que vous savez faire au-delà du vin, des avions de chasse et des serviettes de plage à l'effigie de Johnny Hallyday, c'est bien la conversation. D'ailleurs il y a le festival des conversations qui s'est achevé mercredi et il n'y a pas à dire mais qu'est-ce que vous causez, mais bien hein, mais qu'est-ce que vous aimez ça, vous aimez tellement ça, vous êtes prêt à monter de toutes pièces des engueulades juste pour que ça dure plus longtemps. Combien de fois je me suis retrouvée dans un groupe avec que des Français, il y a un début de conversation mais on tombe vite tous d'accord, donc bon bah là forcément, l'ambiance retombe un peu. Et là, il y a une espèce de démangeaison de groupe qui s'installe. Une petite fébrilité, une ambiance d'avant-pénalty. Comme ça, tu sens, ça va partir. Tu sais pas d'où, mais c'est sûr, il y a un missile anti-char qui va t'arriver dessus entre le fromage et le dessert. Et ça manque jamais. Au bout d'un moment, que ça frétille de malaise. Parce que ça vous fait chier de voir tout le monde d'accord comme ça. Ça vous énerve. Il y a la plus téméraire qui se lance avec une espèce de fausse douceur comme ça, qui reprend le sujet d'avant et qui dit... Bon, sur le fond, je suis complètement d'accord. Hein. Après, je vais faire un peu l'avocate du diable, mais... Et bam, c'est niqué. Personne sort de cette pièce avant 2h du matin. C'est la troisième guerre mondiale. C'est surréaliste comme spectacle quand t'es pas né là. Parce que moi, j'ai pas l'habitude de ça. Et c'est vrai que je me retrouve dans des pièces, t'es entouré de gens qui s'aiment à la base, qui se connaissent depuis des années, qui sont parrains de leurs gosses mutuels, qui se recommandent des kinés, je veux dire des potes, quoi, des vrais, tu vois, qui finissent par se dire des trucs genre « je peux finir, je peux finir !» Et c'est fascinant. Mais vous êtes incroyable, vous êtes une race à part. Et ce qui est encore plus dingue pour moi, c'est qu'après vous êtes dit des trucs genre « toi, on sait où t'aurais été pendant la guerre, tu me dégoûtes, de toute façon j'ai toujours détesté ta gueule, surtout depuis qu'on est mariés. » Après ça, sans transition, on passe à « bon !» Je vais à la cuisine. Quelqu'un veut un café? Ah bah je te prends volontiers un petit déca. Ouais, demain je me lève, il y a la petite qui a le jujitsu. Oh là là, elle doit être trop mignonne. Bah oui, je te montre des photos. En fait, vous étiez pas vraiment fâchés. Les trois heures d'avant, c'est comme le racisme anti-blanc. Ça n'a jamais existé. Et c'est pas que vous avez des problèmes de mémoire à court terme. C'est juste que le débat rentre dans l'art global de la conversation et que vous pratiquez ça pour la beauté du geste. Comme une espèce de démo d'arts martiaux. Comme ça, vous avez fait toutes les prises, mais personne s'est fait mal. Vous savez que c'est là qu'elle réside, l'exception culturelle. Vous aimez vous tabasser verbalement, insulter les grands-parents, faire semblant qu'on n'est pas d'accord juste par amour du débat. Et à la fin, tout le monde peut être copain. C'est extraordinaire. Non, mais je vous le dis parce qu'en l'occurrence, la Suisse, c'est vraiment la fabrique à consensus du monde. Autant la Grèce, ils ont inventé la démocratie, autant la Suisse, on a inventé le son. Ah non, mais ça fuse beaucoup moins les débats en Suisse. Nous, on a un rapport beaucoup plus laconique à la parole, alors forcément, tu accumules moins vite les arguments. Vous, vous vous disputez en fibre optique, nous, on s'engueule par fax, mais ça a son charme aussi. Il y a une blague en Suisse comme ça qui dit il y a trois paysans qui sont posés sur un banc, ils parlent pas, puis il y a une vache qui passe, ils disent rien. Puis au bout d'une heure, il y a un des trois qui dit ça, c'était la vache à Rocha. Silence. Une heure après, il y a le deuxième qui dit « C'est pas la vache à Rocha, c'est la vache à Jackie. » Silence. Une heure plus tard, il y a le troisième qui dit « Bon, moi j'y vais. J'aime pas quand vous vous disputez. » Moi, a priori non plus, mais en vrai, quitte à le faire dans un pays chez vous, j'aime bien, quoi.
La bande originale, Lady, sur France Inter.
Et dans la bande originale de Jean-Christophe Ruffin, en 1952, vous écoutiez, enfin, on va dire, il y avait à ce moment-là à la radio.
Je vous fais une lettre que vous lirez peut-être.
C'est un fax, là aussi.
Si vous avez le temps, je viens de recevoir.
Elle est forte, cette chanson, hein, Boris. Le déserteur. Pourquoi avoir choisi ce titre pour symboliser? C'est la période, hein, c'est autour de votre naissance, mais enfin,
ouais,
c'est pas un souvenir que vous avez.
Oui, parce que je suis né après la guerre, mais quand on dit après la guerre, c'est vraiment pas seulement chronologique, c'est après la guerre, c'est-à-dire après le refus de la guerre aussi. C'est-à-dire que, Boris, si vous voulez, moi je suis né dans une famille de résistants, c'est-à-dire la guerre, c'était vraiment très présent, la commémoration et tout. Et là, pour la première fois, c'est une chanson qui est anti-militariste, enfin anti-guerre de façon très claire. Et ça n'est possible que dans cette période-là. Ça la caractérise. Et on tourne la page, quoi. On n'est plus dans cette idée. Il y a eu la guerre de 70, la guerre de 14, la guerre de 40, puis on attend la suivante. Il y a cette volonté de rupture, quoi. Et ça, c'est l'époque aussi, je trouve.
52, c'est votre naissance. On a parlé de la figure maternelle qui était émancipée avant l'heure, qui a eu ce compte chèque, qui est parti travailler. La conséquence, c'est que vous avez été élevé chez vos grands-parents maternels. Vous parlez d'une enfance un peu triste.
C'est-à-dire que Bourges, puisque c'était là que je suis né, après la guerre, c'était pas... quoi.
Est-ce que c'est dans le lieu?
C'est dur. En plus, c'est une ville qui avait fait des choix de ne pas avoir le train, par exemple, quand le train est arrivé.
Toujours pas.
Maintenant, c'est un peu mieux, mais...
Il y a le printemps de Bourges, là, en
c'est
plus.
C'est une ville qui est restée à l'écart de la modernité pendant très longtemps. Et après la guerre, là-bas, je peux vous dire, c'était quand même très, 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 très triste, quoi, voilà.
Ouais.
Mais en même temps, moi, j'adore cette idée, pensée à cette enfance qui m'a été donnée dans le silence, dans la lecture. C'est un grand privilège. Je pense que c'est ça qui aussi m'a permis de lire beaucoup, de rêver.
1978, là vous écoutiez.
We all live in a yellow submarine.
Oupa.
Yellow submarine.
Oui.
Yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine.
Alors, les amoureux des Beatles diront que c'est peut-être pas le titre le plus représentant des Beatles. Petit côté fanfare, petit côté Sgt. Pepper.
Oui, bon,
pourquoi ce titre, Yellow Submarine?
Non, mais voilà, parce que...
Non, mais il est dingue aussi, hein. Il y a des bruits qui viennent de partout,
oui,
des
oui.
sons, des fanfares.
Oui, mais
animaux.
Parce que c'est aussi une époque, c'est-à-dire que, si vous voulez, il y a la rupture avec Boris Vian, c'était assez éphémère, finalement. La société est restée quand même très, très corsetée. Et puis, il y a eu 68, il y a eu cette espèce de... ces garçons aux cheveux longs, ça faisait scandale qu'ils aient les cheveux longs. Quand vous regardez aujourd'hui les photos des Beatles, franchement...
Ils étaient garçons très propres.
Ils étaient très propres.
Même les Rolling Stones, qui étaient considérés comme les bad boys de l'époque, ils étaient très propres sur eux.
Oui.
C'est sûr.
Et donc, c'était quelque chose de très fort, une espèce de vent de liberté qui a été très, très fort et qui, je trouve, pour une... Là, ça s'exprime assez bien, mais effectivement, c'est pas leur meilleure chanson.
Non, non, mais elle est arrangée de manière totalement dingue.
Oui, on a pu prendre Yesterday, côté... ou je sais pas quoi.
Non, oui, mais on sent le côté rigolo de l'histoire. Ils s'amusaient à faire des bruits avec des cloches, avec des vaches, avec des trompettes dans tous les sens.
N'importe quoi. Ouais, c'est ça. Sur la pochette, ils étaient habillés. Enfin, oui, mais c'est les Beatles. Quoi.
Et vous, en 78, Jean-Christophe, vous faites le choix de l'engagement, vous engagez, c'est MSF. Pourquoi est-ce que vous décidez, vous êtes médecin, votre grand-père aussi, je ne l'ai pas dit, mais on a déjà eu l'occasion d'en parler dans cette émission, était médecin, pourquoi est-ce que vous décidez de vous engager dans cette direction-là, d'être humanitaire ?
Bah parce que la médecine que j'avais choisie, moi, quand j'ai fait mes études, c'était une médecine, justement, en référence à mon grand-père, c'est-à-dire très clinique, quand on examine les patients. Et puis, finalement, la médecine de mon grand-père n'était pas très efficace. Hein, à l'époque, il n'y a pas beaucoup de médicaments. Mais elle était très humaine, parce qu'on accompagnait la vie des gens. Et quand je suis arrivé, moi, à l'âge où j'ai pu moi-même devenir médecin, c'était dans les grands hôpitaux de Paris. J'ai passé à l'internat de Paris en 75. Hein, donc voilà. Là, je suis tombé sur une médecine très technique. Et ce qui ne me plaisait pas, parce que je la trouvais pas humaine. En fait, je la trouvais trop déshumanisée. Alors, elle est très remarquable. Alors, moi, je suis ravi qu'elle se soit développée. Et j'ai beaucoup de respect pour ceux qui ont choisi cette voie. Mais moi, je cherchais autre chose. Et puis, c'est toujours le hasard. Vous savez, je suis parti au service militaire. Les militaires se sont trompés. Ils m'ont envoyé dans une maternité. J'ai fait mon service militaire. J'ai fait des accouchements pendant tout mon service militaire. C'était pas prévu au programme.
Et qu'est-ce qui était prévu?
D'habitude, c'est les tours de cours avec un sac sur le dos, quoi.
Ah oui, d'accord.
Non, mais en fait, j'étais coopérant à Sousse, en Tunisie. Et...
Déjà la bougeotte.
Non, oui, enfin, c'était l'idée d'avoir une autre expérience. Puis j'avais demandé au service de neurologie. Et en fait, il était en construction. Il n'était pas tout à fait terminé. Donc, on m'a dit, on a besoin de quelqu'un à maternité. Donc, j'ai fait des accouchements. Et c'était passionnant parce que ça ne m'a pas donné la vocation de l'obstétrique. Hein. Mais c'était passionnant parce que une maternité en terre d'islam à cette époque-là, etc., c'était extrêmement rude. Hein. Ouais. C'était, d'abord, on n'avait pas de moyens.
Michel Simès, à ce micro, disait que c'était pour lui la plus belle branche du corps médical parce qu'on s'occupait de donner la vie et pas d'annoncer des mauvaises nouvelles ou pas de s'occuper de soigner des maux qui pouvaient mener jusqu'à la mort.
Oui, c'est vrai, sauf que la maternité de Sousse à cette époque-là,
annonçait
souvent les mauvaises nouvelles.
Hein, parce que
déjà, on avait très très peu de matériel, on avait épuisé par exemple nos quotas de gants en mois de septembre.
Donc, problèmes d'hygiène ensuite.
Mais il y avait des femmes qui arrivaient, qui étaient jaunes comme des coins parce qu'il y avait des hépatites virales, etc. Et on était, enfin, je veux dire, complètement démunis. On n'avait pas d'anesthésique. Enfin, c'était vraiment extrêmement violent. Il y avait un type à l'entrée qui chassait les maris avec un gros bâton. C'était quelque chose d'incroyable. Les femmes hurlaient dans les. Enfin, c'était. Il y avait une espèce de violence dans cet endroit. Les coopérants russes qui étaient là. Et roumains qui étaient là, qui tapaient sur les femmes. Enfin, c'était vraiment rock'n'roll, hein, je dois dire. Tout d'un coup, moi, je me suis rendu compte que la médecine, c'était pas seulement de la technique, c'était aussi, et peut-être d'abord, quelque chose, une discipline humaine. C'est-à-dire, c'est qui on a en face de soi. C'est pas seulement une maladie, c'est une personne avec sa culture, avec sa société, avec tout ce qu'elle a vécu.
Et avec une écoute.
Et là, effectivement, j'ai eu envie plutôt de continuer dans cette direction.
1997. Expliquez-nous.
Ça, c'est Mahmoud Ahmed, c'est un des grands chanteurs éthiopiens.
Et Ramela Mela.
C'est le jazz éthiopien, c'est la naissance.
Et cette musique vous fait penser à une période bien précise de votre vie?
Oui, parce que en m'engageant dans l'humanitaire, moi, je me suis retrouvé beaucoup évidemment impliqué dans les drames de la Corne de l'Afrique, hein, en particulier la grande famine de 84-85, hein, et effectivement j'ai découvert, mais je suis allé avant d'ailleurs même, j'étais dans les maquis d'Érythrée.
Est-ce
avant.
Que ça correspond à vos premiers écrits aussi, cette musique et cette période?
Oui, après c'est l'Abyssin, etc. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire. C'est cette époque-là qui est remontée parce que c'était la découverte vraiment d'un autre monde. C'est drôle parce que parmi les humanitaires, chacun a gardé un peu une idée de l'ailleurs. Hein. Alors il y a des gens pour qui, j'ai des amis, pour qui l'ailleurs c'est Afghanistan, d'autres pour qui l'ailleurs c'est le Cambodge, etc. Pour moi, l'ailleurs, c'était vraiment l'Éthiopie.
On va revenir à votre roman Les Sept Mariages d'Edgar et Lumila, Jean-Christophe Ruffin, pour parler avec Florence Lautredoux. Bonjour Florence, merci de venir à ce micro.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste et...
Attention, on est leader, donc là, il peut tout se permettre.
Mais non, c'est pas... on est leader, on constate, c'est tout, avec une modestie flagrante. Mais non, mais votre bonjour était chaleureux, merci. Vous êtes psychanalyste, pardon, et coach en entreprise.
Complètement.
Vous êtes non, ça c'est sûr, c'est pour ça qu'on en profite.
Je crois qu'on vient de passer derrière Radio Courtoisie, là, ça y est. C'est la chute.
Moi, je reprends l'alcool pour l'occasion.
Vous signez L'amour, le vrai, aux éditions Odile Jacob. Avant de définir cet amour, on parlait tout à l'heure de se marier, de se remarier, ce qu'a fait Jean-Christophe Ruffin avec la même femme. Est-ce que ça arrive souvent, ça?
Non, c'est très rare. C'est très très rare. C'est vraiment une, comme dans son livre, c'est des vraies rencontres d'amour et des rencontres d'âme.
Ce qui arrive, j'ai des amis qui ont fait ça, se remarier sans divorcer, c'est-à-dire prononcer à nouveau ses vœux, refaire une fête avec des potes et à nouveau déclarer son amour à son mari ou à sa femme.
Ah, c'est qu'il n'y a pas eu d'embrouille entre-temps, quoi. Ça, c'est juste pour remettre un coup sur le coup.
Moi, j'ai vu des remariages quand même.
Des remariages sans qu'il y ait divorce.
Bien sûr. En fait, il y a une volonté dans le mariage. Il y a quand même une composante sociale. Il y a une composante festive. Il y a un engagement aussi qui peut être un engagement de cœur ou d'âme. Donc, on peut imaginer que tout ça a commencé. Les gens aient envie de reprononcer leurs vœux. Souvent, c'est ça la formule.
C'est ça.
On reprononce ses vœux devant autrui. Donc, il y a engagement devant autrui.
Oui, et puis prétexte à faire la fête aussi, quelque part. Oui. L'amour, le vrai. Alors là, mais quel boulot.
Ah, ça y est, on tombe dans la fiction.
Prends des notes, Daniel.
L'amour, le vrai, c'est le leader de l'amour, pour reprendre l'image de ce qui vous arrive aujourd'hui.
Il n'y a pas qu'une forme d'amour.
Non, mais en fait, quand j'ai dit l'amour, le vrai, c'est que je pense qu'on a beaucoup de conditionnements. Et souvent, les conditionnements sont des conditionnements parentaux. D'ailleurs, dans le livre de Jean-Christophe, ce qui est beau, c'est qu'il y a très peu de conditionnements parentaux, puisque ce sont des quasi-orphelins qui se rencontrent. Donc, ce sont des âmes simples, ce sont des personnes sans conditionnement. Et très souvent, ce qui nous empêche d'avoir des histoires amoureuses agréables et belles, c'est qu'on a beaucoup de conditionnements, beaucoup de contraintes, beaucoup d'interférences, qui sont celles de notre passé, du travail, des images sur moi, etc.
L'héritage, l'éducation, et le regard. Alors, le plus beau mariage dans le livre de Jean-Christophe Ruffin, c'est quand justement, il n'y a plus aucune réelle, autre raison, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit historique, c'est juste, on s'aime.
Voilà,
point.
C'est
la quand il n'y a plus rien, oui, c'est ça.
Ouais. C'est aussi beau que c'est une rencontre d'âme. Enfin, ce sont deux personnes qui s'apprécient et qui sont dans un ressenti à l'instant de complétude. C'est ce qu'on recherche tous. Hein. Je pense que le mythe de l'amour, l'amour parfait, on l'a tous. Enfin, depuis Platon, cette idée qu'à un moment donné, on va rencontrer l'autre moitié et qu'on va être totalement...
Que le nombril est la trace de cette séparation.
Voilà, c'est des tas de contes et mythes qu'on retrouve. Cette idée qu'on recherche toujours l'âme sœur ou l'âme jumelle ou la twin flame. Enfin, il y a des tas d'appellations pour ça. Mais l'idée qu'à un moment donné, on rencontre un être avec qui enfin on s'apaise. Je pense qu'on a tout ça en nous. Et ce qui est très beau, c'est que la rencontre, souvent, ça passe par les yeux, par le regard. Et vous avez un très beau passage sur le regard, la façon dont il voit les yeux de Ludmilla. Enfin, jamais vu parler d'iris et de prunelles comme ça. Donc c'est beau.
Merci. Écoutez,
c'est très romantique. Son livre est très romantique et c'est délicieux. Quoi.
Cet amour, oui, mais alors cet amour, le vrai justement, pour en revenir aussi aux amours multiples dans le livre de Jean-Christophe Ruffin, est-ce qu'il faut qu'il y ait des divorces? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des, même si c'est pas des divorces réels avec le papier qui va avec, est-ce qu'il faut qu'il y ait des conflits, des compromis, et que tout ne soit pas lisse justement pour que cet amour soit vivant et qu'il soit vrai et véritable?
Ah, mais je crois que vous le dites absolument. En fait, ça va à l'encontre. Il y a une programmation sociale pour se marier, être tranquille, avoir beaucoup d'enfants ou pas d'ailleurs, et en tout cas que ça continue comme ça toujours sur une surface lisse. L'amour, oui, peut être fait de ruptures, de confrontations, de heurts. Il y a quelque chose de vivant. Or, je pense
qu'il faut qu'il y ait des épreuves pour les dépasser, les surpasser, pour que l'amour soit encore plus fort.
Oui. Quand il y a vraiment de l'amour, oui, c'est certain.
Or aujourd'hui, c'est vrai que souvent au premier clash, on se dit bon bah ok, ça va,
puis les gens ne se marient pas, ils ne s'engagent pas. Les gens vivent ensemble, comme on disait dans les années 60 ou 70, 80, ils se mettent à la colle. Aujourd'hui, ils se paxent. On crée des espèces d'assemblages qui peuvent se dissoudre comme ça, puisqu'une certaine manière, il suffit de partir. Donc c'est pas aussi fort qu'une relation où les gens s'engagent, ils mettent un enjeu personnel et peut-être même social, et ensuite doivent vivre les aléas d'une relation. Et...
Oui, mais c'est une façon d'être libre aussi, parce que se marier, c'est aussi avoir le regard de la société, et donc divorcer, c'est échouer au regard des parents, donc finalement ne pas se marier, c'est pas prendre ce risque-là d'annoncer des choses terribles aux siens.
C'est certain, bah, c'est pour ça qu'il peut y avoir des mariages symboliques.
Je ne parle pas de moi, mais je...
Allonge-toi
Jean-Christophe l'a dit tout à l'heure, il y a toujours un pot de soie.
Non, mais il peut y avoir des mariages symboliques.
J'ai hâte de lire le livre de Leïla. Des mariages symboliques.
Ouais, des mariages symboliques, c'est-à-dire à un moment donné, pourquoi ne pas mettre un peu de sacré? Finalement, on parle de sacré. C'est ça qui est beau dans une union, c'est que, ok, ce sont, voilà, on est des cellules en décomposition, on va mourir, voilà. Bon, c'est pas plomber l'ambiance en ce jour de fête.
Voilà.
C'est vrai.
Oh, ça me gêne, Florence, ça me gêne.
Oui, si vous insistez.
On va tous mourir, et voilà. Forcément.
Mais à un moment donné, on met un peu de sacré. Il y a une notion de sacré. Et ça peut être choisir un endroit beau, faire une cérémonie. Il y a des tas de façons de faire des cérémonies sacrées sans forcément aller voir un maire.
Bien sûr.
L'amour, le vrai, n'existe pas. C'est plutôt au pluriel. C'est des amours, les vrais.
Ah, peut-être qu'on rencontre une fois une personne avec qui on sent que c'est la personne.
Oui, mais chacun avec des formes différentes. Et on ne peut pas, il n'y a pas de modèle d'amour à suivre en particulier.
Non. D'ailleurs, on voit bien que c'est un sujet, plus on s'approche, plus il devient flou.
Ah, c'est joli ça. Mmh. Je pense, on n'ira pas plus loin, je pense. On ne peut pas. Merci
enfin,
beaucoup.
On y voit clair.
L'amour flou, c'était le film de Roman Boringer, Philippe Rambaud, qui était très joli.
Ouais,
Florence Lautredoux, merci d'être venue à ce micro. Je rappelle que l'amour.
Il continue. Je rappelle, ça ne veut rien dire, je rappelle. Hein.
L'amour le vrai aux éditions Odile Jacob. Tanguy Pasture.
Bonjour.
Oh là là.
T'avais dit quoi sur le fait qu'on soit leader, toi?
Tanguy, oui, bah, j'ai le nez fin, moi.
Vous allez nous parler d'une étude scientifique concernant les poils.
Oui, une équipe suisse a comparé les poils de 30 chiens à ceux de 18 hommes barbus. Et ils sont catégoriques à côté des barbus. Les chiens sont de petits savons ambulants tellement ils sont propres. La barbe d'un homme véhicule en fait des milliers de bactéries. Potentiellement, Sébastien Chabal peut signer la fin de notre civilisation, Nagui.
Très bien, on en parle après les infos de midi. Avec Léla Kadourougadi, avec Marina Rollman, Jean-Guy Bassureau, Albert Aldou, Daniel, mon Daniel.
Bonjour Jean-Baptiste.
Et notre. Oui. Et Jean-Baptiste, et Hélène, et Sophie, et tout le monde.
Et Marina.
Et Aurélie, que j'embrasse aussi au passage. Ouais. Et notre invité, Jean-Christophe Ruffin.
Ah oui.
Bravo. Oh là 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 là.
La tout qualité bien, physique de Jean-Christophe, on ne parle pas assez.
C'est vrai.
C'est vrai, Jean-Christophe. Très beau. De quoi? Qu'est-ce
que vous... Bah vous.
Oui.
Je sais pas. Toujours. Vous dégagez une espèce
un truc, un magnétisme,
sérénité, magnétisme, de beauté, un calme. Oh là là. C'est le sport.
C'est le sport, c'est la vie saine.
Oui. C'est le fait d'habiter en montagne. Non mais c'est vrai, ça me.
Ouais. Ça aide.
Ouais, ça aide beaucoup. Ouais.
Parce que quand vous restez trop longtemps à Paris, vous êtes pas bien, vous êtes pas à l'aise.
Non, mais au contraire, je suis content de venir à Paris parce que je n'y vis pas. Je suis presque en Suisse, en fait.
Non, mais c'est vrai, la manière dont vous parlez de Paris, d'ailleurs, dans le livre, c'est aussi...
Je suis pas parisien, moi, en fait. Je suis venu, j'avais 10 ans, bon, vous direz, c'est pas... Et puis, maintenant, je n'y vis plus depuis quand même un certain temps. Enfin, en tout cas, je passe plus de temps en dehors qu'ici. Donc, je suis très content en même temps. C'est très agréable, Paris, quand on n'y vit pas.
C'est un vrai luxe. Le vrai luxe, c'est ça, peut-être.
Ouais. Cette histoire d'amour entre Edgar et Ludmilla... D'ailleurs, les 7 mariages d'Edgar et Ludmilla, vous commencez par Edgar, ce qui ne correspond pas à votre élégance.
Parce que c'est une question de sonorité, en fait. Ça a été un peu...
Parce que les 7 mariages de Ludmilla et d'Edgar, ça marchait moins bien.
Ludmilla
et d'Edgar. Les deux voyelles.
Oui, les deux voyelles, ça collait pas.
Donc la musique de l'écriture, parce que la musique est présente dans le livre, mais la musique de l'écriture, est-ce que vous avez votre gueuloir? Est-ce que vous lisez à haute voix vos textes pour voir si...
Non, j'ai pas de gueuloir, mais je pense qu'il faut, il faut entendre un petit peu ce qu'on écrit, notamment les dialogues, en fait. fait, c'est important. Et puis, ces questions, les descriptions aussi sont... moi, je suis très influencé, au fond, par les surréalistes, Joseph Delta, des gens comme ça, qui ou même Giono, surréaliste, mais pour qui, finalement, les descriptions naissent plutôt de la symbolique, enfin, de la des sons des mots, que d'une description précise, je veux dire, c'est pas, on n'écrit pas le guide bleu, le guide vert, c'est une poésie des mots qui fait naître les images.
Les sept mariages d'Edgar Illumina, on parlait tout à l'heure de l'amour, le vrai. Pour vous, Edgar Illumina, c'est l'amour, le vrai? Je parlais de ce mariage où finalement ils n'ont plus rien, plus aucun intérêt, plus où
bah
ils
oui,
se retrouvent.
Ils ont réussi quelque chose quand même. C'est une histoire d'amour qui dure 50 ans, c'est pas mal. Même si elle était à épisode, à éclipse, ils n'ont jamais renoncé.
Même s'il y a eu tromperie, même si.
Oui, c'est-à-dire qu'ils se sont gardés des deux écueils des couples sur la durée, c'est-à-dire bon la rupture complète, définitive, totale. Ou le renoncement, c'est-à-dire on reste ensemble, mais finalement, petite vitesse, quoi. Ils ont toujours vécu d'une façon passionnée, mais en acceptant, effectivement, que chacun suive sa route aussi. Moi, je trouve que c'est plutôt...
Oui, et puis sans qu'il y ait une espèce de... Sans qu'aucun ne prenne le dessus voilà. Sur l'autre.
Non, et justement, ils ont des carrières très différentes, ils ont une réussite très différente, ils ont aussi des échecs, parce que finalement, moi, je trouve que ce qui est intéressant dans les personnages, c'est quand il y a un côté fitzgéraldien, il y a un côté de la fracture. À un moment donné, ça se casse, quoi. C'est-à-dire que si c'est que la réussite, que voilà, tout va bien, tout est formidable, c'est pas très intéressant. Il faut qu'à un moment donné,
oui, mais en même temps, j'entends, il faut qu'il y ait une rupture, mais on peut comprendre aussi que, étant donné les milieux dont ils venaient, ils avaient besoin aussi de se prouver à eux-mêmes qu'ils pouvaient atteindre des sommets.
Ça ne peut pas tout le temps durer. Enfin, sauf d'être la première radio de France, évidemment. Ça, c'est autre chose.
Mais bien de le rappeler.
C'est comme en amour, quoi.
Mais diamant, que... oui, les réussites, elles atteignent une limite. Ouais. C'est-à-dire que une cantatrice, par exemple, forcément, à un moment donné, ça va mal se passer. Ouais. C'est-à-dire que la Calas,
comme pour la Calas, oui,
ça s'est terriblement mal terminé.
Sauf que ces histoires d'amour étaient catastrophiques.
Et ces histoires d'amour étaient. Oui, alors l'histoire d'amour de la Calas, c'est ça qui m'intéressait aussi, c'est que c'était une période où les artistes lyriques sont sortis des théâtres grâce à la Calas. C'est-à-dire que c'est pas seulement, c'était pas leur triomphe, n'était pas comme au 19e siècle uniquement sur scène. C'était aussi leur vie privée. Et puis à partir de Carmen, du film avec Julia Mirren-Johnson, c'est le cinéma. C'est-à-dire que l'opéra devient un spectacle aussi. Voilà. Donc c'est cette période-là qui m'intéressait.
D'autant que la Calas avait aussi une vie personnelle qui a été mise en scène. Donc elle sortait de son simple rôle de chanteuse lyrique.
Absolument. Et c'est ça. C'est-à-dire qu'on s'intéressait à elle autant pour les phrases que de sa vie. Mais ça s'est mal terminé quand même. Ouais. Ça s'est terminé par des scènes vraiment d'engueulades terribles avec le public, de caprices, etc. Ouais. Et donc, c'est là où ça devient intéressant, c'est quand ça va plus, quand les personnages qui ont réussi comme ça leur vie descendent un peu de leur piédestal, puis se retrouvent seuls, mais ils sont pas seuls, parce que justement ils vont se retrouver ensemble.
Est-ce que l'histoire d'amour entre Bernard Tapie et son épouse est pour vous une belle histoire d'amour dans l'adversité, dans le combat, dans les crises politiques, dans les
J'en connais pas le détail, mais c'est vrai que...
Non, mais c'est vrai que la déclaration d'amour de sa femme
était
touchante.
Oui,
mais quel que soit le jugement que l'on ait, quelle que soit la réalité de l'histoire, c'est une histoire.
Oui, et c'est une histoire, et c'est une histoire du même ordre, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui va entre ces deux êtres au-delà de la réussite. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est facile d'être avec quelqu'un
quand
tout va bien.
C'est sûr.
C'est après que
c'est comme pour l'amitié. Hein, c'est dans
voilà, exactement.
C'est quand on a des problèmes qu'on voit le nombre d'amis que l'on
ouais,
a.
On exactement. Éprouve,
parce que là, par exemple, on est. Et là, on se rend plus compte qui est vraiment pote.
On est même méfiant. Non, mais sauf qu'on n'a pas toujours été premier.
Si.
Donc on peut peut-être se souvenir d'avant.
On peut surtout... Alors, je sais pas si tu fais exprès de tendre la perche ou pas, mais cette tranche, France Inter est première, Radio de France, c'est formidable, mais jamais, jamais, jamais dans l'histoire de France Inter, la tranche horaire 11h-12h30 n'a été leader. Jamais.
Donc c'est
jamais.
Historique.
Donc c'est la première fois. Ouais. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Voici Tanguy Pastureau. C'est ça. Tanguy, à ce que je vois, vous n'êtes pas barbu.
Non, Nagui, pour une raison simple, c'est que dans ma tête, c'est le foutoir. Et comme tous les gens perturbés, je compense en offrant une apparence très nette. Hein, je me rase 14 fois par jour, par exemple, hein, avec du glyphosate. Alors ça marche très bien, j'ai déjà perdu un tiers de la surface de mon visage. Hein, mon objectif à terme est de pouvoir mettre la tête entière dans l'anus d'un artiste de cirque afin de monter un petit numéro à deux.
J'ai hâte.
Tenez, regardez les psychopathes. Dans leur cerveau, c'est Ariel Dombal qui fait l'amour avec Francis Lalanne. Et ben d'apparence, ils sont nickel. Ted Bundy, Émile Louis, Francis Holmes, mis ensemble, ça aurait pu être les To Be Two. C'est comme les To Be Free, mais quand il y en a deux qui se sont alliés pour découper l'autre. Bien rasé, bien peigné, profil gendre idéal. Seulement tous les hommes ne sont pas comme Francis Holmes ou moi. Certains sont bien dans leur tête et peuvent donc se permettre d'être négligés en dehors, se laisser pousser par exemple la barbe. Cette touffe de poils affreuse qui entoure la bouche, je trouve ça écœurant. Quand une femme embrasse un barbu, j'ai toujours l'impression qu'elle doit atterrir en parachute dans le cratère d'un volcan endormi sans toucher les bords. Il n'y a rien de plus dégueulasse qu'un barbu, à part deux barbus. On n'est plus sur la barbe bien taillée à la Émile Zola, non. La plupart des mecs sont en friche. Quand ils vont à Jardiland, on les remet avec les arbustes.
On a perdu Daniel, écoutez.
En 2019, on devrait être des cyborgs. Résultat, la moitié d'entre nous a le look de Néandertal. S'ils vont manger à Hippopotamus, on leur propose de chasser eux-mêmes leur porc. Il y a même des barbiers qui rouvrent. Hein, ce sont des mecs qui taillent vos poils en vous disant qu'ils sont beaux et vigoureux. Mais dans un monde normal, ça c'est une scène d'un film de la chaîne XXL. Hein, ensuite, dans le film, le barbier sort un énorme rasoir coupe-chou et dit au client « Alors mon gros loup, qu'est-ce qu'on coupe ?» Il faut pas se tromper. Bref, la barbe, c'est immonde. Cyril Ferraud avec une grosse barbe, aucune ménagère de moins de 50 ans n'en rêverait pour marier sa fille. Elle se dirait « Ce gonze-là est juste bon pour récurer le lavabo de la salle d'eau avec son menton. » Et selon des scientifiques suisses, qui sont très propres, hein, comme tous les Suisses, Marina Rollman, par exemple, diffuse une odeur d'amande douce dans un rayon de 700 mètres autour d'elle. Hein, c'est le même principe que la moufette, mais version au bas haut. Ces Suisses, disais-je, ont comparé la charge bactérienne de 18 barbus à celle de 30 chiens. Alors, ils ont prélevé des poils, hein, les types ont fait « Ah, ça fait mal hein, !» puisque l'homme a une capacité de résistance à la douleur très faible. Hein, moi, la fois où je me suis enfoncé une écharpe sous l'ongle, je crois que j'ai été moins digne qu'une femme accouchant de quintuplés qui aurait décidé de sortir tous en même temps. Hein, une lubie, depuis les petits font l'ouverture de Jiffy le premier jour des soldes. Enfin, les chiens, eux, n'ont rien dit. Alors, les hommes de science, ensuite, ont analysé les poils. Alors, c'est certain, affreux. Hein, tous les hommes avaient un nombre de bactéries élevé dans la barbe. Certains avaient des araignées. Il y en a un qui logeait sans le savoir une biche et ses quatre fans. Hein. Alors, attention, les chiens aussi avaient de la bactérie dans le pelage. Normal, ce sont des êtres qui ne se lavent pas. Et c'est pas comme les enfants. Quand vous dites à un chien, si tu vas pas au bain, t'auras pas la tablette, il vous regarde avec le même œil qu'un candidat de télé-réalité et se lèche.
Bon, vous m'avez dit que dans cette étude scientifique, la moitié du panel de ces barbus pose problème.
Oui, sur 9 des 18 hommes, la barbe contenait tellement de bactéries qu'elle présentait des risques pathologiques. Hein, ils ont enfin pu comprendre pourquoi leur femme était morte juste après le premier baiser. Jusqu'à présent, ils pensaient lui avoir fait trop d'effets. Alors que les chiens avaient des niveaux de bactéries moyens à faibles. Andreas Gutzeg, le responsable de l'étude, déclare « Sur la base de ces résultats, les chiens peuvent être considérés comme propres comparés aux hommes barbus. » Et là, je me tournerai, s'il était toujours dans le studio, vers Daniel Morin, qui potentiellement est une source de contamination.
Oui, pour on le sait, on
dans
sait.
Une société normale, il serait abattu sur le champ et on l'enterrerait sous la moquette du bureau de Léa Salamé, qui est absente le temps que son compagnon Raphaël Glucksmann prépare sa raclette dans un mois. Mais non, on le laisse là, avec sa barbe. Alors que regardez Albert Algout, pas un poil, même pas dans les oreilles, ce qui à son âge est totalement anormal. Eh bien, il ne présente aucun danger. On peut le lécher comme un Micojet en 88 sur la plage du Lavandou. Vous l'aurez compris, les chiens sont plus propres que les barbus. Donc quand moi, je passe avec mon chien devant la mosquée de Cergy ou la synagogue de Sarcelles, je dirai rien sur les catholiques parce qu'ils ont assez souffert cette semaine. Que je vois des religieux tous barbus qui regardent mon kleps avec dégoût. Mais j'ai envie de dire à Benoît Hamon, j'ai appelé mon chien comme ça parce que je bosse à Inter, Benoît Hamon, ne baisse pas les yeux, c'est toi le plus propre de tous. Et c'est là qu'on a eu tort, nous, la France, d'abattre les frères Klein en Syrie avec un drone. Vous avez vu les barbes qu'ils avaient? Mets un coup de langue là-dedans pour ramasser une miette et ils mourraient d'eux-mêmes, ils s'auto-détruisaient. Hein, mon conseil est donc de se raser la barbe. Parce que si on vaccine nos gosses et qu'en même temps papillonner avec ses poils fait crever toute la famille, eh ben c'est pas la peine. Et éviter les zones de forte présence d'intermittents du spectacle. Hein. Ils sont barbus, les vieilles charrues annulées. Il y a plus de poils là-dedans que sur 160 Bigfoot au Canada. La barbe, c'est moche, c'est sale. Jim Morrison, c'est pas la drogue qui l'a fait mourir, c'est sa barbe. Janis Joplin, sa barbe. Carlos Glabre serait toujours parmi nous. Tous à vos gilettes.
Merci, Tony Passion.
La bande originale. Lundi sur France Inter.
Pas la tête, Daniel.
Fais chier cette chronique.
Non, tout est vrai. Tout est vrai.
Je te fais plus de bisous là maintenant.
Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla. Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française signe ce nouveau roman chez Gallimard. Cette histoire, ces histoires d'amour. Parce que c'est vrai que ça aurait pu aussi être plein d'histoires d'amour différentes avec des situations différentes qui se construisent, qui se détruisent. Vous auriez pu faire une espèce de...
Mais c'est autant de, il y a autant de mariages qu'il y a autant de couples en fait, parce que finalement ils évoluent, c'est ce que vous expliquez, ils changent et donc ils se rencontrent à nouveau, ils tombent à nouveau amoureux et ça recommence en fait. Mmh.
Oui, mais enfin, ça aurait été une autre
histoire. Livre, hein, ouais, bien sûr.
Mais non, là, ce qui est intéressant, c'est que c'est les mêmes.
Ouais.
Enfin, c'est les mêmes, mais qui changent.
Qui
voilà,
changent, qui évoluent, ouais.
Avec justement, comment dirais-je, le souvenir des accidents, des problèmes, parce que ça aussi, ça reste forcément présent dans l'esprit des deux.
Oui. D'ailleurs, tout à l'heure, quand vous parliez de l'amour, l'amour parfait, votre invité disait, ils sont libres parce qu'ils n'ont pas d'héritage. Parental.
Oui.
Mais moi, je suis moins optimiste.
Même orphelin, oui, carrément.
Oui, c'est ça, orphelin. Oui. Mais je pense qu'il y a un héritage de la rupture aussi. Oui. C'est-à-dire quand on est... par exemple, moi, je viens d'une famille où tout le monde est divorcé depuis pratiquement 4 générations. C'est très bizarre. Mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, mes parents, ils ont tous divorcé. Quand on a cet héritage-là, c'est vrai que ça ne vous prédispose pas à une harmonie. Oui. Vous voyez, c'est aussi un héritage qui vous conditionne quand même.
Alors Edgar, on peut parler, je sais bien qu'il y a les deux, hein, il y a Edgar et Ludmilla, sinon il n'y aurait pas de mariage, mais Edgar, pourquoi le faire aussi, comment dirais-je, magouilleur, avide, prêt à conquérir le monde et prêt à
magouilleur. Ouais, il est débrouillard.
Il a commencé à être faussaire déjà.
Oui, c'est un garçon qui a pas fait d'études, qui a pas vraiment de bagage dans la vie, donc c'est son charme, c'est sa débrouillardise, c'est la sympathie qui se dégage de lui et tout ça qui va lui permettre de réussir, mais pas tout de suite parce qu'effectivement au début il est bibliophile, mais par hasard tout ça, il cherche des petits boulots, puis il y a un vieil aristocrate qui le prend comme jardinier. Voilà, et puis du coup, il se rend compte que tiens, vendre des vieux livres, ça peut rapporter. Et c'est assez amusant parce qu'il y a ces mondes des bibliophiles, enfin, m'intéresse beaucoup. Je trouve que c'est un monde assez étrange dans lequel il y a des personnages souvent extrêmement cultivés, mais autodidactes, des gens qui vivent comme ça, ils sont capables dans des secteurs culturels de tout savoir. Si vous voulez, il y a des spécialistes, des éditions originales de tel ou tel auteur.
Mais vous avez rencontré des gens qui ont gratté. Alors,
eu un scandale récent très célèbre avec donc quelqu'un qui avait monté une sorte d'énorme entreprise d'achat en participation
des actionnaires.
Voilà, comme des actionnaires et puis on s'est aperçu qu'il y avait là-dedans tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, il y avait effectivement deux vieux documents. Il y aura en effet des lettres de Napoléon à Joséphine, etc. Mais il y avait aussi des lettres de Daniel Morin. Enfin, il y avait des choses qui avaient...
C'est ta journée, Daniel. C'est la lettre de menace.
Je sais. Mais... Non, mais en même temps, t'es le seul barbu. Donc...
Il y avait des choses beaucoup moins...
Oui, là, il y a du vin.
Beaucoup moins authentiques.
Oui, à propos de lettres, il y a la Marseillaise aussi dans les trois écrits qui lui permettent de démarrer.
Oui, parce que il monte un système, mais ça c'est alors une observation.
Histoire assez... vraie aussi.
Oui, ouais. C'est-à-dire qu'il monte un système. Si vous voulez, les faussaires ne peuvent dans ce domaine des documents.
Ont besoin de vrais documents pour glisser des faux.
Voilà, c'est ça. Mmh. C'est-à-dire que vous pouvez pas. Vous prenez une édition originale et puis vous ajoutez quelque chose. Vous ajoutez ce qu'on appelle un envoi, une dédicace. Vous ajoutez des trucs qui donnent de la valeur, mais il faut quand même. Dans ce que vous vendez, qu'il y ait une partie qui soit authentique. Bon, voilà, et c'est comme ça que ça fonctionne.
Une histoire d'amour avec des hauts, avec des bas, c'est vraiment les montagnes russes de l'amour entre Edgar et Ludmilla. Et Daniel Morin, on voit bien que l'amour peut rimer avec la passion. On a peur, on s'emballe. Il y a ces divorces, ces remariages, et c'est normal. Le couple, c'est comme une aventure, une chevauchée fantastique.
Non!
nom de Dieu, ça y est. Ich bin tot, I'm dead, esto muerto, la casa con Pepe Cabron, puta cogna. Je crève dans toutes les langues. Oh non, mais avec votre la vie, c'est une chevauchée, ça m'a flingué à grands coups de sabot, espèce de chien du Caire. En même temps,
présent.
Rendre son dernier souffle devant un immortel, ça a de la gueule. Ouais. Immortel, mais pas manchot, hein. Il nous impose un livre tous les ans, le beau, hein. Et puis non, j'ai pas le droit de crever comme ça. J'ai encore tant à apporter à la France. J'ai encore bien d'autres mammifères à satisfaire. Franchement, monsieur Guy, oser autant de poncifs ammoniaqués, bien sûr, devant un prix Goncourt au physique aussi chatoyant, ça ne le fait pas, mon petit bonhomme. Et que le couple, c'est une aventure, gna 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 gna. Et que l'amour peut arriver avec passion, gna gna gna. Sans parler de votre maintenant classique, la vie est une chevauchée. Ah! Et si ma tante Leïla en avait, on la rappelait tonton Nagui. Oh, et puis, qu'est-ce que vous y connaissez? À l'amour, nom de Dieu. La passion, l'aventure, vous qui n'êtes l'homme que d'une femme, une femme que vous avez achetée, bâillonnée, séquestrée, que vous enfermez la nuit tombée dans le cachot de votre château fort de Levallois-Perret. Château qui sert de mairie à un autre satyre dans votre genre, dont je tairai le nom par respect pour la famille Balkany. Oui. Non, ne dirai rien. Alors oui, je sais, vous y connaissez. Rayon dégueulasserie, comme en témoigne le charnier érotique de stagiaire précaire dont vous êtes le responsable. Vous êtes multifonction, comme un employé de chez Kama et Sutra. Vous êtes un érudit du sexe comme un étalon de chez Lagarde et Michard, mais vous êtes con comme un micro-péniche chez Jackie et Michel, enfin. En même temps, pour une fois, je ne vous condamnerai pas, petit sarrasin au corps tellement atrophié. Étant en couple depuis longtemps avec ma compagne, qui par chance est aussi ma sœur, et par hasard également mon labrador, je ne peux que lutter contre la passion sans contrôle. Non, l'amour, c'est comme l'armée. On signe, on en bave, si ça va pas, on déserte, ou bien on crève. Une fois encore, mon bon monsieur Guy, vous avez dit...
N'importe quoi !
C'est ça.
Merci, la bande originale avec Nagui.
Et avec Jean-Christophe Ruffin, les sept mariages d'Edgar et Ludmilla qui vivent en effet une passion, une ascension aussi, une réussite. Le regard des autres est important, jusqu'au paparazzi d'ailleurs.
Ouais, qui, l'intervention des paparazzi. Ouais,
qui s'intéresse à leur vie. La notoriété peut tuer l'amour ?
Oui, bah, ça aussi c'est un incident enfin, qui fait écho à des choses réelles, effectivement, autour de la famille Monaco. Mm-hmm. Enfin, mais bien sûr que l'exposition comme ça, médiatique, ça comporte des risques très, très grands.
Alors ça comporte des risques pour briser des mariages, ouais. Et puis il y en a même qui se font pour la com'.
Voilà, c'est-à-dire que...
Pour le people, quoi.
C'est ça. C'est là où on entre dans une autre logique, c'est-à-dire des mariages qui peuvent être des mariages sociaux, avec, en effet, des raisons qui tiennent à la pression médiatique. Puis,
qui peuvent relancer des carrières.
Voilà, c'est-à-dire que... mais on parlait de la Callas tout à l'heure, ouais. Ou Jackie Kennedy, ouais. C'est vrai que leur mariage était des événements absolument considérables. Ouais. Planétaire. Et la Callas, sa célébrité était à son époque surtout liée à ça. Alors aujourd'hui, il y a des concerts de la Callas en hologramme, ouais, vous avez vu, ouais, récemment. Ouais. On commence à la redécouvrir.
Ça vous choque, ça ?
Pour sa voix. Non, moi je trouve ça beau. Il n'y a pas que Mélenchon non plus qui fait celle des hologrammes.
Pas le même répertoire.
C'est pas.
Non, oui. Je précise, c'est Jean-Christophe Ruffin qui est avec nous.
Oui, voilà.
Oui, c'est ça.
Bah oui.
Oui, 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 bah oui. Ça. Puis il y a un seul F. Moi.
Ouais, ça doit pas être simple.
Non, mais c'est vrai que la Callas est en train de redevenir une icône lyrique, mm-hmm. alors que de son vivant, c'était un personnage médiatique essentiellement.
Sans dévoiler la fin, il y a pour vous une morale à l'amour, justement, c'est que...
Bah, c'est surtout quand tout va mal, et surtout, c'est la durée.
Ce qu'on a dit tout à l'heure, ouais, c'est
la
ça.
La durée. C'est-à-dire que c'est...
De ne rien lâcher, c'est pas la première crise, ou le premier problème qui doit faire, ou le premier divorce qui doit faire qu'on ne s'aime plus, c'est ça?
D'abord, et puis il n'y a pas que le renoncement comme, qui mène à la durée. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on se dit, bon, bah, on va finalement, vivre une petite vie, comme ça, à petite vitesse, qu'on pourra rester ensemble. On peut rester, finalement, ensemble dans quelque chose de beaucoup plus exigeant et beaucoup plus chaotique d'une certaine manière, mais plus beau aussi.
Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla, c'est chez Gallimard, c'est signé Jean-Christophe Ruffin avec la plume de Jean-Christophe Ruffin. On a parlé de l'histoire, on a parlé du fond, la forme elle est juste dingue, encore une fois, on aime vous lire et c'est avec avec plaisir qu'on le fait. Des excuses malgré tout à présenter, malgré déjà, cette journée de bonheur.
Déjà Daniel. Des excuses pour Jean-Christophe Ruffin qui après avoir passé une heure et demie sur la première radio de France va devoir retourner dans la monotonie de la vraie vie. Ben oui, je suis désolé, ça va piquer un peu, surtout si vous croisez là-bas, comme ça vous arrive quelquefois, l'infâme Dédé Manoukian. Désolé pour Augustin Trapenard et Laura Adler qui, même si aussi travaillent sur la première radio de France, ne recevront jamais Jean-Christophe Ruffin. Eh oui, mais oui, il l'a dit, il aime le vide, il est à nous. Désolé pour les programmateurs musicaux de la première radio de France qui ce matin ont dû subir...
C'était pas prévu.
C'était pas programmé, non?
Il n'y a pas que Queen, il y avait même pire.
Champion du monde.
Ouais, alors ouais. Oui, on est loin de Vincent Delerme, d'Eddie de Préto, et encore, connaissant Nagui, ça aurait pu finir avec Black M ou Anne Romanoff, et enfin, désolé, bien sûr, pour RTL, Europe 1, RMC, tous les petits concurrents, mais aujourd'hui, décidément, France Inter, c'était...
On cache pas notre joie, oui.
Alors la cache pas, on la voûte pas.
Jean-Christophe Ruffin, bonne journée. À suivre les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Et demain, Pio Marmaille sera notre invité.
J'espère qu'il sera à l'heure.
Bonne journée.